Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40.
Esmeralda Guzman, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes la présidente de l'association Selva Viva qui propose une exposition en ce moment à la Maison des associations de Rennes dans l'espace d'exposition qui s'appelle L'Instantané, Bretagne-Amazonie dynamique de réciprocité. C'est à voir depuis le 10 septembre et jusqu'au 5 octobre. J'ai envie de commencer par vous présenter. Je crois que vous avez eu plusieurs vies. Vous avez notamment été enseignante en Colombie et puis en France. Et si on parle de la forêt amazonienne, c'est que vous l'avez pratiquée, vous l'avez vécue, cette forêt, enfant.
Je vois que vous m'avez googlé. Oui, en effet, j'ai vécu plusieurs vies. C'était l'article qui s'appelle « Toutes les vies d'Esmeralda » et qui était publié par Braise Femmes. En effet, je suis arrivée en Amazonie à l'âge de 8 mois, il y a 66 ans. Et j'ai vécu dans la vraie jungle, dans une hutte. Et je fais partie d'une famille de colons, colombiens. Et attention, ce n'est pas la même notion de colons que vous avez. Nous appelons les colons aux personnes, notamment des agriculteurs, des paysans qui ont émigré vers l'Amazonie depuis d'autres départements de la Colombie même. Donc, je suis à mon troisième métier. Et le premier, j'ai été enseignante en France et en Colombie. La France a été mon amour puisque j'ai fait une licence en sciences de l'éducation et spécialité langue étrangère français-anglais. J'ai toujours adoré le français. Et voilà pour tout ce que je peux vous dire me concernant. Donc tout à l'heure, on va peut-être parler du projet associatif, mon troisième métier.
Quel souvenir vous en gardez de cette forêt ? Vous y êtes restée combien de temps ?
Je suis restée beaucoup de temps. Et je me suis absentée pour aller à Bogota, la capitale de la Colombie, poursuivre mes études supérieures. Et après, je suis retournée dans le département du Putumayo, où se trouve la commune de Puerto Guzmán, le lieu de nos actions. Donc, mes souvenirs, eh ben, ils sont merveilleux. Assise donc par terre, je regardais les nuages et notre distraction, c'était de deviner les formes des nuages en essayant de trouver des animaux, notamment. Et d'autres souvenirs, la rivière qui à l'époque était absolument limpide et qui était notre source de vie parce que c'était le lieu où l'on se baignait, on prenait l'eau pour cuire les aliments, on lavait le linge, on pêchait des poissons pour nous nourrir parce qu'on vivait pratiquement en autarcie.
Et vous venez de citer donc le nom de ce village, Puerto Guzmán. Mm-hmm. C'est pas un hasard si c'est aussi votre nom de famille ?
Non, c'est pas un hasard. En fait, je vous disais que les colons qui sont venus d'autres départements, notamment de la région la plus développée du pays, ça paraît contradictoire, mais en fait, il n'y avait plus de surface agricole. Elle s'était accaparée par les gros propriétaires terriens et l'État avait besoin aussi d'une présence dans la zone qui fait frontière avec d'autres pays. Et c'était une manière de signaler le territoire. Et donc, papa et maman étaient enseignants. Les autres personnes étaient des agriculteurs. Et papa est devenu petit à petit un leader communautaire qui a beaucoup œuvré pour les habitants non autochtones. Et je le vois encore à la machine taper des documents pour aller chez dans le conseil du département ou de la région, demander des aides pour améliorer un chemin d'accès au village, par exemple. Et au moment de la création de la commune de Puerto Guzmán, qui est aussi grande presque que l'île et Vilaine, et en assemblée générale, ils ont décidé de la nommer Puerto Guzmán, en honneur de papa.
J'ai lu toujours sur ce même portrait qui vous a été consacré sur le média Bresfam que vous vous sentiez plus amazonienne que colombienne. Ça nous amène au sujet de l'exposition. Vous pouvez expliquer un petit peu en quoi ?
Oui, totalement, totalement. Par mon vécu, donc vous savez, on a un attachement viscéral à votre environnement immédiat. C'est ça qui construit votre enveloppe psychique, comme on dit en psychologie. Et après, parce que en tant que famille de colons, je fais partie de la deuxième génération, ma mère de la première génération, et par culture familiale, ce travail pour la communauté, on dit chez nous, le bien commun, ces actions, celle de mon père d'abord et celle de ma famille ensuite, parce qu'ils ont créé une fondation là-bas. Et en fait, je le sens comme une forme de se faire pardonner que de continuer. Maintenant, on fait marche arrière, on a déboisé pendant, je ne sais pas, 50 ans. Et depuis 13 ans, on a fait demi-tour et on a arrêté l'élevage de bétail pour se diriger vers la sylviculture. Et ayant le privilège d'être dans un pays comme la France, où tout nous est donné pour aider, pour la solidarité internationale, eh bien, je le fais avec plaisir. De la même manière que j'ai pu venir depuis là-bas, c'est un trou, comme on dit dans le langage courant, et me trouver ici et faire tout ce que j'ai fait, eh bien, je me sens dans le devoir et j'ai le plaisir de soutenir des projets pour les jeunes de là-bas et pour reboiser, et maintenant pour une communauté autochtone, pour préserver sa culture.
Ces projets, vous les menez avec l'association Selva Viva. On redit un peu le contexte de création et puis aujourd'hui, qui sont les équipes qui font vivre ce projet et puis ses missions ?
Selva Viva veut dire forêt vivante. Elle a été créée il y a 7 ans. Et juste avant sa création, revenons à 2016, il y a eu un concours de circonstances heureuses, dont le procès symbolique contre Monsanto, les accords de paix avec la guérilla, c'est les événements majeurs. Et le département d'où je viens est un département névralgique où il y a énormément de cultures de coca et c'était le nid de la guérilla puisque c'est la forêt. Et on a trouvé que c'était le moment propice pour créer ici avec des amis français l'association Selva Viva et là-bas ma famille, la fondation Itarca. Nous agissons sur 4 axes. Sensibilisation, ce sont des actions ici, mais aussi là-bas, auprès du public, notamment scolaire et supérieur, sous forme d'ateliers, d'expositions, de visites guidées, d'échanges avec des acteurs que nous faisons depuis 3 ans venir. Ce sont des bénéficiaires des projets. C'est pour ça que l'année dernière, on a fait un projet avec Guayusa. C'est une association qui œuvre pour l'Amazonie équatorienne, donc avec Guayusa, où nous avons, Selva Viva et Guayusa, avons porté ce projet de faire venir des jeunes de ces 2 coins de la planète. Ça, c'est la sensibilisation. Ensuite, nous avons levé des fonds, bien évidemment, et ce sont les collectivités locales et d'autres organismes privés, comme des associations, Sœur Optimiste, les Amis de Jussara, l'entreprise Chimborazo, l'entreprise Trivala, aujourd'hui Olga, et d'autres fonds de dotation comme Seed and Seeds, et la Fondation Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, où nous avons notre compte.
Ces fonds, ils servent donc à soutenir la reforestation en fait, Colombie ?
Effectivement, ces fonds On répond à des appels à projets. Donc, ces fonds, nous avons déjà soutenu, accompagné 4 projets. Le premier, c'était l'aménagement d'un centre de sylviculture. La fondation a 20 hectares reboisés et préservé 45 hectares de forêt primitive qu'on veut préserver à tout prix. Et on a réalisé un projet, on a soutenu un ancien cultivateur de coca qui a exercé cette activité pendant 25 ans et maintenant il a 10 hectares et 10 000 arbres. On a soutenu une formation qui a duré 3 ans d'éducation environnementale des jeunes de la commune et qui sont devenus également des réalisateurs et réalisatrices de documentaires sur des contenus environnementaux. Et maintenant, on a démarré le projet de gardienne de vie pour soutenir une communauté autochtone. Nous en avons plusieurs. Et celle-ci a fait appel à la Fondation Intarca. Donc, si vous voulez savoir comment on choisit les projets, ce sont les habitants qui demandent à la Fondation Intarca d'être accompagnés. Et on étudie, Selva Viva et Intarca, et les conditions de faisabilité des projets. Et on répond à des appels à projets. Mais eux, là-bas, ils trouvent aussi des fonds. Et ils trouvent de plus en plus de fonds.
Il faut dire que l'Amazonie couvre 8 pays. Le plus médiatisé, ça reste sans doute le Brésil, mais il y a aussi la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, encore le Venezuela. Du côté du Brésil, qui est sans doute le mieux identifié par le grand public en France, on est dans un contexte quand même d'amélioration avec une baisse de la déforestation suite à l'arrivée à la présidence de Lula, même si voilà, il y a encore des fragilités et ça dépend des régions concernées. L'Amazonie colombienne est sans doute moins connue. Comment se porte la forêt aujourd'hui?
Merci pour nous, c'est une belle opportunité de faire connaître auprès du public, de faire savoir que nous sommes dans la bonne voie. C'est très difficile de préserver parce qu'il y a des circonstances que je vais vous expliquer. Il y a un contexte national. Nous avons pour la première fois un président Petro, socialiste, qui est un ancien guérillero et qui peut avoir des défauts, mais qui a l'énorme qualité de vraiment agir via les ministères pour soutenir de petites activités et en lien avec, dans mon département, dans l'Amazonie colombienne aussi, qui comporte 7 départements, pour amener les gens, pour leur donner la possibilité d'exercer des activités de la forêt, de vivre de la forêt et dans la forêt en causant le moindre impact possible. Et pour les initiatives de reforestation également, il y a des ONG étrangères qui captent des fonds de l'Europe destinés à reforester. Il y a beaucoup de fonds destinés à des parcs nationaux. Or, ce sont les habitants qui n'habitent pas les parcs nationaux parce qu'éloignés, parce que difficiles d'accès, etc., qui causent le plus de soucis qui sont à l'origine de la dégradation des eaux, pollution des eaux, etc., avec l'aide des multinationales pétrolières, etc. Donc, vraiment, nous sommes très optimistes, en tout cas pour ce qui concerne le binôme Fondation Intarca là-bas, Association Selva Viva ici, vraiment on voit l'impact positif de ces projets de développement durable, pas uniquement celui de la reforestation. Il faut aussi sensibiliser les gens, etc.
On a devant nous l'exposition que l'association Selva Viva présente jusqu'au 5 octobre à l'espace d'exposition L'Instantané à la Maison des Associations en plein cœur de Rennes. Ce n'est pas une exposition photographique, vous tenez à le dire, plutôt une exposition documentaire qui vient raconter vos actions, on le dit comme ça?
Exactement. C'est une superbe exposition qui est installée sur des panneaux en bois, qui ne vient pas d'Amazonie, bien entendu. Et on a voulu présenter dans chaque panneau un projet qui a été mené là-bas. Et sans oublier que nous menons des projets ici, qui ont une grande ampleur. Et nous sommes là, par exemple, devant un acteur de solidarité internationale, en l'occurrence l'association Selva Viva. Et de manière schématique, vous savez, les buts, les actions. Et après, nous avons des schémas pour montrer les dynamiques de réciprocité. Au début, on avait pensé à la nommer Bretagne-Amazonie Solidarité-Réciprocité. Eh bien non, il faut changer notre mentalité. Le Sud aussi est réciproque. Il ne se contente pas de recevoir des fonds du Nord, des pays du Nord, mais il fait des actions pour sensibiliser, pour faire ce qu'on appelle des actions d'EXI, éducation à la citoyenneté et solidarité international auprès du public breton. Et on montre ici dans ce schéma comment nous mettons en lien les citoyens bretons et les porteurs de projets. Ce monsieur a représenté la Colombie comme témoin victime en 2016 à La Haye lors du procès symbolique contre Monsanto. Il a subi l'épandage chimique avec du glyphosate, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, il est fier d'avoir tout seul, parce qu'il ne peut pas payer de la main-d'œuvre, 10 000 arbres et 10 000 hectares. Nous voyons également ici la solidarité, parce qu'il y a Pedro Pablo avec deux jeunes, Josefa et Jocelyn, dont nous gardons un excellent souvenir. Ils sont restés pendant 3 mois accueillis par la fondation et il y a eu un échange de savoir. C'est ça qui est très intéressant. Eux, ils ont appris à faire un germoir. Et lui, il a appris à faire des mesures pour calculer la croissance des arbres dans 6 ans, dans 6 mois, etc., à long terme, en hauteur et en largeur. Voilà, il leur a montré ses anciennes plantation de coca qui était asséchée. Il y a aussi une explication de la manière dont circulent les fonds récoltés. Les projets menés en Amazonie, les projets menés en France et en Europe, parce que nous sommes allés jusqu'en Allemagne, et des photos. Il y a une chose très chouette dans cette exposition, ce sont des codes QR avec des capsules vidéo, des mini-documentaires qui illustrent très très bien, des podcasts qui complètent l'information qui est donnée de manière schématique pour faciliter la lecture.
Et je vous demanderais bien, est-ce qu'il y a une plante un peu, enfin un arbre emblématique?
Oui. En fait, je voudrais vous parler des plantes sacrées des peuples autochtones. C'est évident. Je vous présente ici le yerré ou ayahuasca. Nous sommes devant un kakemono de 1,70 m par 80 cm. La nature, c'est une écorce liane de la région amazonienne. Les vertus accordées par les peuples autochtones, c'est ça qui est intéressant. Ils lui attribuent celle de facilitateur de connexion spirituelle avec les esprits ancestraux et les forces cosmiques. Vous savez très bien, leur posture est avec la nature est d'égal à égal. Donc, le monsieur que vous voyez là, c'est un chaman, c'est quelqu'un qui utilise l'ayahuasca pour préparer une potion magique, comme on dirait en Bretagne, et à l'époque des druides. Et il demande la permission à la plante avant de couper des morceaux d'écorce ou de liane qui est épaisse, qui devient épaisse, pour préparer cette boisson avec laquelle il soigne ses malades. Maintenant, avec les dérives du tourisme européen et nord-américain, il y a des faux chamans qui se remplissent les poches avec des touristes naïfs. Il y a aussi le phénomène d'appropriation culturelle, parce que maintenant, en Europe, on trouve partout des chamans. Je dis ça avec un peu d'ironie.
Bretagne, Amazonie, dynamique de réciprocité, c'est à voir depuis le 10 septembre et jusqu'au 5 octobre à la Maison des associations de Rennes, dans l'espace d'exposition qui s'appelle l'Instantané.